Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 5h56 avant minuit, nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et on a appris ce matin que Jim Carrey allait recevoir un César d'honneur en 2026, une info qui me régale. Je me suis dit que c'était l'occasion de s'écouter un petit extrait de cette légende hollywoodienne parce qu'il n'y a pas de raison qu'on rigole pas aussi un peu dans ce marasme d'actualité et aussi parce que c'est vraiment comme ça que j'imagine Donald Trump dans l'intimité perso. C'était en 2000 et c'est Jim Carrey dans le Grinch.
Aussi deux qu'ils soient, rien ne vaut trop chez soi.
Rez-de-chaussée, déchets industriels.
Ouais! J'ai encore maigri d'une taille et demie.
Et cette fois, je ne craquerai pas.
Va chercher le bâton. Va chercher le bâton.
Y a même pas de bâton. Moi, je suis malin. Des appels ?
Vous n'avez pas de nouveau message.
Étrange. Faut que je vérifie mon annonce.
Si vous prononcez un seul mot...
Je vous attrape ! Je vous étrangle ! Je vous étripe !
Pour m'envoyer un fax, appuyez sur la touche étoile.
Tant pis.
Tout de suite, le flash d'Estelle. Coup de panique aujourd'hui à Munich, la fête de la bière est restée porte close jusqu'à 17h ce soir en raison d'une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich. L'origine de l'incident ? Un incendie dans un immeuble résidentiel. Sur place, les pompiers ont maîtrisé les flammes, tandis que des forces spéciales sont intervenues pour désamorcer des engins explosifs découverts dans le bâtiment. D'après des médias locaux, un conflit familial serait à l'origine du drame. Une lettre écrite par le suspect contiendrait une menace d'attentat sur l'événement. L'auteur, présumé des faits, a été retrouvé blessé près d'un lac, non loin de l'immeuble incendié. Selon l'AFP, il aurait succombé à ses blessures. C'est officiel, les États-Unis sont entrés ce mercredi 1er octobre en shutdown. Faute d'accord sur le budget, une partie de l'administration fédérale est à l'arrêt. Résultat, plus de 750 000...
Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup, hein. Fonctionnaires mis en chômage technique, des aides sociales perturbées, des musées, agences ou parcs nationaux fermés. Le pays tourne au ralenti. Le couperet est tombé à minuit, heure de Washington. Au Sénat, républicains et démocrates n'ont pas réussi à s'entendre à temps. Et chacun rejette désormais la faute sur l'autre. Dans les faits, seules les fonctions dites « vitales » sont maintenues. Police de l'immigration, contrôle aérien et services de sécurité. Mais pour les usagers du service public, de grosses perturbations sont à prévoir dans les jours à venir. Le dernier shutdown remonte à 2018, sous Donald Trump également, et il avait duré 35 jours. Un record. En ce début de semaine, les talibans passent l'Afghanistan en mode avion. Un moyen de prévenir le vice d'après les autorités. Une sanction de plus selon les citoyennes et les citoyens. L'Afghan nous explique.
Lundi 29 septembre, les autorités talibanes ont imposé une coupure nationale des communications, mais aussi des connexions par fibre optique. L'AFP, elle, a perdu le contact avec son bureau dans la capitale Kaboul vers 15h15. Les raisons de cet acte sont encore floues. Les autorités talibanes voudraient apparemment prévenir le vice et l'immoralité en Afghanistan. Alors, pourquoi la situation en Afghanistan depuis lundi inquiète davantage au niveau des droits humains ? Eh bien parce que la seule fenêtre que possédait le peuple afghan vers le monde vient de se fermer. Depuis sa prise de pouvoir en 2021, Hibatullah Akhundzada, chef suprême des talibans, cherche à instaurer la charia en Afghanistan. Cette coupure d'internet et des réseaux de communication pourrait être un moyen d'y arriver. Pour rappel, les talibans sont des fondamentalistes islamistes appartenant à un mouvement religieux, politique et militaire, l'émirat islamique de l'Afghanistan. Proches d'Al-Qaïda, ils sont aussi étroitement liés au Pakistan. Destitués du gouvernement afghan en 2001, les talibans sont revenus au pouvoir en 2021. Leur vision de l'islam est perçue comme extrémiste, et ce, sur de nombreux aspects. En 2024, Reporters sans frontières a classé l'Afghanistan parmi les 3 pires pays quant à la liberté de la presse. En plus des médias, les accès à la culture, musicale ou cinématographique sont fortement restreints, voire proscrits. Des lois et des décrets permettent énormément de discrimination religieuse, particulièrement à l'encontre des pratiquants chiites. Par ailleurs, les relations entre personnes de même sexe restent illégales aux yeux du gouvernement taliban et sont passibles de la peine de mort. Cependant, c'est particulièrement les droits des femmes que les talibans remettent en cause constamment. On parle même d'un apartheid de genre. La loi en Afghanistan prévoit par exemple l'obligation pour toutes les femmes de se couvrir intégralement, visage compris, et l'interdiction de faire entendre leur voix en public. Autre exemple, pour bénéficier d'un transport en ville, la femme doit être accompagnée d'un parent masculin. Mais le plus brutal, ça reste leur exclusion du droit au savoir. Au-delà de l'âge de 12 ans, il était interdit aux filles d'aller à l'école. Dans les colonnes de courrier international, une Afghane témoigne « Quand les talibans nous ont interdit d'aller à l'école, je me disais qu'au moins il nous resterait toujours Internet. Aujourd'hui, privées d'Internet, les femmes n'ont plus aucun moyen d'apprendre ou de s'informer. » Du côté de l'économie et de l'administration afghane, c'est un gel national, de même pour les transports internationaux. Désormais, 43 millions d'Afghanes et d'Afghans se retrouvent isolés du monde, jusqu'à nouvel ordre, selon les autorités talibanes.
Ataollah Zaïd, le porte-parole taliban de la province de Balkh, a annoncé sur ses réseaux sociaux que d'autres mesures seront mises en place dans tout le pays pour répondre aux besoins en matière de connectivité. Ambiance électrique au Palais Bourbon. Ce mercredi marque la rentrée officielle des députés et avec elle le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. En effet, de nouveaux noms apparaissent pour les postes de vice-président. 2 députés RN ont été élus, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, mais également Christophe Blanchet du Modem, Marie-Agnès Poussier-Winsbach d'Horizon, tandis que les insoumises Clémence Guettet et Nadège Abomongoli retrouvent leur poste. Et cette année, ça a été la guerre pour les postes. L'objectif de la majorité présidentielle a été de limiter l'influence de la gauche, quitte à s'allier avec le Rassemblement national. La gauche, quant à elle, a refusé la répartition proportionnelle qui aurait permis au RN d'obtenir un siège au bureau. Seul terrain d'entente trouvé, la reconduction des 3 questeurs, Michel Tabarot, Christine Pierre-Beaune et Brigitte Klinter. Le rappeur Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, a été remis en liberté sans poursuite cet après-midi, d'après Libération. Il a été placé en garde à vue ce lundi 29 septembre à Paris, suite à une plainte déposée par son ex-compagnon pour des faits de viol, d'agression sexuelle et de violence habituelle sur conjoint. Selon Paris Match, cette procédure avait d'abord été classée sans suite en 2022. Mais de nouveaux éléments, dont un témoignage et des échanges de SMS, ont relancé l'affaire. Une nouvelle plainte a d'abord été déposée le 5 mars dernier. Ce dossier s'inscrit dans un conflit judiciaire tendu entre les 2 anciens conjoints. En janvier, Nekfeu avait obtenu la condamnation de son ex-compagne à 2 mois de prison, avec sursis pour non-représentation d'enfants. Ce 1er octobre, top départ pour Octobre Rose, le mois où la lutte contre le cancer du sein passe à l'action. À Rennes, plusieurs initiatives sont programmées pour sensibiliser, informer et agir. Le groupe Form Fitness du cercle Paul Bert se mobilise à nouveau pour Octobre Rose. Rendez-vous le samedi 4 octobre pour une matinée 100% sport et solidarité. Une course solidaire s'élancera à Rennes dans le cadre de Tour Rennes Cours les 11 et 12 octobre. Que vous soyez coureuse ou simple marcheuse, c'est une façon de mettre ses baskets pour la cause. Pour tout savoir sur les horaires des événements, les lieux où vous inscrire, consultez les sites du cercle Paul Bert et Tour Rennes Cours. Des œuvres qui font tellement partie du décor qu'on finit par ne plus les remarquer. L'art du campus de Rennes 2 était cette année au cœur des journées du patrimoine. Des journées qui mettent en valeur la culture et le patrimoine français à travers les siècles pour présenter sa 20aine d'œuvres. le service culturel de Rennes 2 a proposé des services déambulatoires et immersifs vendredi 19 septembre dernier.
Pour la mise en couleur bleu-vert de l'œuvre
Avez-vous vu l'art à Rennes 2? Au milieu de la foule d'étudiants, un petit groupe, les regards levés vers un mur, une fresque ou un escalier, se démarque. Pour Bérénice et Anne-Sophie, l'art du campus de Villejean est une vraie découverte.
Je trouve vraiment que c'est très intéressant parce que pour avoir passé 5 ans à la fac, je les ai finalement toutes vues, mais je n'ai jamais vraiment réalisé que c'était des œuvres et aussi tous les symboles derrière. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir voir la fac sous un autre œil.
C'est un moyen de transmettre l'histoire. L'éventail est très très large. Des modalités de commande des œuvres, que ce soit le 1% culturel, que ce soit des partenariats dans le cadre de biennale, que ce soit des commandes ou un travail conjoint avec les étudiants, et c'est un dynamisme auquel je ne m'attendais pas forcément.
C'est un bâtiment rêve, donc c'est un bâtiment qui est un peu destiné aux associations.
Derrière ces visites, on retrouve des étudiants et des étudiantes du master médiation du patrimoine en Europe. Le temps d'un week-end, Lise Loiseau et Manek Brion présentent l'histoire de ces œuvres.
Donc en fait, on prend un petit échantillon des œuvres d'art présentes sur le campus de Rennes 2. On a beaucoup de street art, de Mia, sur la façade de la BU, mais aussi donc de fresques d'autres ailleurs sur le campus, un peu de mosaïque. Donc avec Jacques Zwobada, des choses qui ont été commandées par l'université et aussi par les étudiants.
Abstrait avec des influences antiques.
Tony Morrison, la fresque féline, des idées percutantes. Pour ces étudiants et étudiantes, il est essentiel de replacer les œuvres dans leur contexte. C'est aussi un bel hommage aux promotions précédentes à l'origine de ces visites.
Je trouve ça important justement de faire un parcours comme celui qu'on fait aujourd'hui pour justement montrer qu'il y a des œuvres, on passe devant sans même savoir qu'elles existent. Avez-vous vu la Rennes 2? Je pense que la majorité des gens répondraient non, pas forcément, je vois pas de quoi vous parlez. Si pourtant il y en a, regardez autour de vous, on va vous les montrer.
Ces visites immersives des œuvres de Rennes 2 ont été proposées dans le cadre des Journées du Patrimoine, mais elles restent accessibles toute l'année.
Merci.
Merci
à vous. Merci Romane pour ce reportage et pour plus d'événements culturels autour de Rennes 2, rendez-vous sur culture.service.unif-rennes2.fr. Le Diapason fête ses 20 ans ce jeudi 2 octobre, joyeux anniversaire en avance. À partir de 18h30, la célèbre salle culturelle vous ouvre ses portes pour une soirée festive et artistique. Au programme, concert live avec Lita, Fleuve et Beat Bouette Trio. L'événement est gratuit pour les étudiants. Infos pratiques et inscriptions sur culture.unif-rennes.fr ou directement auprès du Diapason au 02 23 23 55 68. L'occasion parfaite de redécouvrir un lieu devenu incontournable à Rennes. Journaliste, auteur et réalisateur, Laurent Jézéquel est aussi un passionné de rock. Une passion qui l'a conduit à retracer le parcours des Ramoneurs de Menhir, le mythique groupe breton, à travers un documentaire. Lafcon est allé à sa rencontre pour comprendre comment est né ce projet.
Nous sommes les enfants de la terre et du vent, on s'appelle les Ramoneurs de Menhir.
Alors le projet est né d'une rencontre avec les Ramoneurs lors de mon film précédent sur Gilles Servin. Ça fait longtemps que je les suis et je trouvais ça dommage et jamais rien eu de fait sur eux, parce que c'est un groupe à part, sans concession, qui fait une musique punk trad qui plaît beaucoup de gens et à travers toute la France et même en Europe et ailleurs.
Et ce soir, on va chanter pour la Bretagne libre.
Ça a pris un petit peu de temps, il a fallu s'apprivoiser. Je suis très content d'avoir fait ce film. D'abord parce que c'est une prise de parole qu'on n'entend pas souvent, quoi. On est dans une période aseptisée où on n'entend pas souvent ça.
Si on était là, si on faisait pas de discours et machin, ça serait peut-être pas pareil.
Et je pense que la musique et le cinéma doivent rester engagés. Il n'y a pas assez d'artistes engagés. Il y en a, mais il y en a très peu qui ont une notoriété.
Non, on ne lâchera pas. Unis par la danse et dans le combat.
J'ai voulu être embarqué avec eux. C'est-à-dire que c'est un groupe qui vit sur la route, en concert. Ils sont en concert tous les week-ends. Ils remplissent les salles. Donc moi, j'ai voulu être avec eux. Donc voilà, c'est un film où on est dans le camion, quoi.
Le groupe fait vivre 5 familles. S'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de salaire.
Dès le début, je savais que c'était... On tenait le bon documentaire. C'est-à-dire qu'il suffit de passer quelques heures avec eux et vous comprenez, vous vivez cette énergie, c'est juste qu'il faut le vivre, quoi. Et donc le film fait vivre ça.
Les ramoneurs menhirs.
On va ramener les menhirs. C'est même mieux comme ça.
L'avant-première a lieu ce soir au Cinéville de Verne-sur-Sèche. L'événement est ouvert à tous et gratuit. Vous pourrez retrouver sur place Laurent, Jézéquel ainsi que les ramoneurs de menhirs. On rappelle aussi que le film sera diffusé sur France 3 Bretagne le 9 octobre à 22h55.
Merci Estelle, on te retrouve mercredi prochain pour un nouveau Flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et c'est l'heure de l'interview. Alors, tout de noir vêtu, un café à la main, Clément Le Goff est programmateur du Grand Soufflet qui commence aujourd'hui. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais commencer par le moins réjouissant, comme ça on fait le plus cool après, mais c'est quand même important. Selon Spectacle Vivant en Bretagne, les dates confirmées des artistes bretons en 25-26 sont en baisse de quasiment 44% par rapport à la saison passée. Le contexte économique est loin d'être favorable pour la culture, on n'arrête pas d'en parler ici à Syllab. Je voulais savoir, est-ce que le Grand Soufflet est concerné ? Est-ce que vous avez dû adapter la prog de cette année avec l'actualité économique et culturelle ?
Oui, bah on est un festival de territoire qui comme beaucoup de festivals est lié à de l'argent public. Donc on n'est pas dans une dynamique économique de spectacle privé comme Live Nation ou voilà. Donc on essaie de faire d'avoir autour de l'association un projet culturel et ça doit se financer. Aujourd'hui effectivement le contexte économique, le contexte social est très difficile. On le voit nous en tant qu'organisateurs, puis on le voit auprès des équipes artistiques. En tout cas, on le voit au quotidien. Après, pour cette année, ça va être la 30e édition du Grand Soufflet.
Ouais.
On a fait un choix au niveau de l'association de maintenir le cap pour cette année et d'essayer au maximum de faire le moins de coupes budgétaires possible. Mais l'avenir est compliqué, je pense, pour tout le monde.
Ok, on va aller vers du plus réjouissant. Tu l'as dit, cette année, vous fêtez un anniversaire. J'ai le même âge que le Grand Soufflet. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour cette 30e édition ?
Alors l'idée, quand on a commencé à construire cette édition, pour fêter cette 30e édition, on s'est dit, comment on peut rendre hommage au projet, comment est-ce qu'est né le Grand Soufflet ? Le Grand Soufflet, c'est un festival au départ né autour d'un instrument. Oui. C'est né autour de l'accordéon, le créateur du festival il y a 30 éditions, 29 ans. Voulait mettre en valeur son instrument. Et puis depuis que je suis arrivé en 2022, on a fait évoluer le projet autour des musiques actuelles et musiques du monde. Donc c'était construire une programmation qui mettait ces deux aspects là en regard, et on a une inauguration mercredi 1er octobre autour de deux artistes assez phares du Grand Soufflet qui vont être Bonga et Lionel Suarez André Mainviel. Donc eux, ils représentent vraiment l'histoire de ce festival et puis la beauté et la diversité qui a pu être proposée sur de nombreuses éditions. Et puis on accueille des groupes comme Arat Kilo avec Mamani Keita, Mike Lads, on accueille des projets comme Hazard, enfin voilà, plein de projets qui donnent à voir et à entendre des couleurs très actuelles, avec pas forcément d'accordéon, mais plutôt autour d'artistes qui ont quelque chose à dire de leur territoire et une forme de diversité culturelle à apporter.
C'est important en ce moment, effectivement, de parler de diversité. Et je crois qu'il y a 70 lieux dans tout le département qui accueillent le Grand Soufflet, si je ne me trompe pas.
Ouais, on est présent sur 44 communes du département. Ouais. Et sur ces 44 communes, en tout, on fait 120 propositions artistiques. Et ça va de courts-métrages à des conférences-rencontres, à des concerts. Enfin voilà, il y a vraiment plein de formats sur effectivement 44 communes, donc ça va de...
C'est assez rare de voir des festivals qui sont comme ça sur tout un département. C'est important pour toi de garder cet aspect du festival année après année.
Oui, le festival est né comme ça, dès la première édition en 1996, il est né comme ça. Donc moi, quand j'ai un peu hérité de ce paquebot qu'est le Grand Soufflet, forcément, c'est une des spécificités qui est au cœur du projet. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec tous les co-organisateurs, parce que du coup, on n'est pas que l'équipe du Grand Soufflet, on travaille avec toutes les communes et les associations du territoire. Et on va de Saint-Malo à Fougères, à Redon, en passant par Montauban. Enfin voilà, il y a plein de petites communes et plus grosses, enfin ouais, plein de diversité de lieux.
Il y en a pour tout le monde. Et de Saint à Malo à Fougères, du coup, on peut voir l'affiche du Grand Soufflet. Je voulais qu'on en parle parce que ça fait 4 éditions. Je crois que c'est la même artiste qui vous accompagne pour créer cette affiche, Cécile Aurégan. Pourquoi tu avais envie de nouveau faire appel à elle pour cette édition anniversaire ?
Donc ouais, Cécile Aurégan, on travaille avec elle depuis 2022. Elle a vraiment une patte et une fibre artistique qui parle à l'esthétique du festival. Et au départ, on s'était dit, voilà, on part pour 3 ans avec Cécile. Trois affiches, 3 personnages pour marquer un peu cette couleur des musiques du monde. Mmh. Et puis, arrivant sur cette 30e édition, on lui a passé une commande un peu particulière, on lui dit, bah écoute, regarde les 30 affiches des 30 dernières éditions.
Okay.
Et propose-nous, avec tous les personnages qui ont pu passer, de nous composer voilà, une affiche un peu anniversaire. Donc c'est vrai que c'est une affiche plein de petits détails, il y a plein de références à ces 30 affiches. Il y a une exposition d'ailleurs qui est à la Maison Bleue, la maison de quartier qui est pas très loin de Rennes 2, où il y a les 30 affiches qui sont exposées.
Oui, on est à la radio, mais on peut peut-être la décrire. Elle est pleine de couleurs, cette affiche. Elle est sur un fond noir, mais il y a plein de personnages qui s'en détachent. Un soleil, il y a de la danse. C'est très festif, en fait. Et c'est un peu, je pense, l'image qui a envie de renvoyer le festival, même si on n'est pas dans le meilleur des contextes. C'est quand même la fête.
C'est un festival. Pour resituer le cœur du festival, il est au Tabor, donc dans le parc du Tabor. On monte 2 chapiteaux, des chapiteaux de cirque, avec toute une guinguette. C'est vraiment un esprit extrêmement festif et avec plein de propositions gratuites, de quoi se restaurer, de boire un coup. Voilà, c'est vraiment hyper, hyper accessible, et même la tarification des concerts, on fait très attention à ça, à ce que ce soit accessible à tous et que tous les gens qui ont envie de venir faire la fête sur ces 10 jours de festival puissent le faire.
Yes, alors tu l'as dit, 70 lieux, une centaine de rendez-vous, on ne pourra pas parler de tout parce qu'on n'a que 15 minutes, mais je me suis dit peut-être qu'on peut donner des conseils en fonction des profils de nos auditeurs et auditrices. Alors première question, je suis étudiant ou étudiante à l'Université de Rennes, à l'Université de Rennes 2, qu'est-ce que tu me conseilles ?
On a une soirée qui est pas à destination des étudiants, parce que c'est pas que pour les étudiants, mais le jeudi soir, on a une soirée vraiment hyper, hyper ouverte. Donc ce jeudi 2 octobre, on aura l'artiste brésilienne Bia Ferreira. C'est une chanteuse, guitariste assez incroyable. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur cette année. C'est une artiste extrêmement engagée sur les droits LGBT, sur le racisme. C'est quelqu'un qui porte vraiment un message sur scène. Donc voilà, on n'a pas toujours des artistes hyper engagés, et là, elle l'est, et c'est très chouette à voir. Et sur cette même soirée, on aura Le Grand Barouf, qui est plutôt un groupe de baltrad qui traverse entre le centre de la France, le Poitou, la Vendée, voilà, qui emmène à danser, mais qui a une super, super grosse énergie. Et puis on va terminer avec Djebaliti, c'est un groupe de bal occitan, un peu psychédélique, carnavalesque, c'est bien barré. Pour ceux qui étaient à Mythos l'année dernière, ils étaient à Capéos, là ils sont passés faire danser là-bas, et c'était vraiment hyper chouette, donc on est content de les recevoir. Donc voilà pour cette soirée du jeudi soir 2 octobre, et j'en parlais toujours au chapiteau du Tabor, la soirée du samedi soir, avec un triple plateau, Aïta mon amour. Donc ça, c'est de l'électro berbère, qui est vraiment, c'est de la musique de trance hyper, hyper bien faite, un duo chant et électro. Et puis moi, un de mes deuxièmes gros coups de cœur de cette programmation, qui est Arat Kilo avec Mamani Keïta et Mike Ladz. Donc Arat Kilo, groupe mythique d'ethio jazz en Europe, et accompagné par deux chanteurs, Mamani Keïta, chanteuse d'Afrique de l'Ouest, vraiment cet univers mandingue avec une voix assez incroyable, et Mike Ladz, qui est un rappeur US, rap fin des années 90, qui a un flow hyper posé et tout ça, et le binôme Chant d'Afrique de l'Ouest, rap, il est incroyable. Mmh. Et donc voilà, pour le samedi soir, ce seraient les deux gros conseils moi, que je donnerais de programmation à aller voir.
Bah, on va s'écouter quelques petits extraits. Le Grand Barouf, et puis Aïta mon amour, et Arat Kilo. Mmh. Deuxième question. Alors, je suis jeune, active, comme on dit. Je prends plus trop le temps de faire des découvertes parce que je suis un peu dans le tourbillon de la vie. Qu'est-ce que tu me conseilles ?
Eh bah, bien, d'aller à la MJC Brechini le mercredi 8 octobre pour découvrir le Jacques Imolard Acoustic Quartet qui fête aussi ses 20 ans. C'est un anniversaire dans l'anniversaire. Jacques Imolard, pour resituer, c'est un des violonistes les plus créatifs dans le monde des musiques traditionnelles bretonnes et qui a emmené son violon à travers le monde, de l'Inde au Balkan, en passant par le bluegrass. Voilà, c'est un artiste qui a vraiment un langage musical hyper, hyper chouette. Et il a monté son quartet en 2005, donc il y a 20 ans, il a fait une tournée pour fêter ça. Et c'est vraiment, moi, c'est les albums que j'écoutais quand j'étais ado, que j'ai vraiment adoré. Et voilà, c'est trop chouette de voir ça tourner. Tournée au Grand Soufflet, donc le 8 octobre à la MJC Brechini. Ils seront le dimanche 12 à Pipriac, dans une toute petite salle.
Yes. Dernière question, je suis plutôt métalleuse, moi, fan de sonorités un peu rock, un peu plus hard, je sais pas. Qu'est-ce que tu me conseilles ?
Alors, qu'est-ce que je conseille ? D'aller voir Bombino. Bombino, c'est de la guitare électrique et voix touareg, un peu blues du désert, mais avec une des sonorités assez marquantes. C'est vraiment un artiste qui a une patte. Il fait une grosse tournée européenne. Là, c'est sa seule date en France, donc il passe vendredi soir en clôture au festival. Et il sera précédé d'Aïdouti Orchestra. Alors ça, c'est plus festif et c'est vraiment fanfare balkanique et c'est hyper festif, donc ça fait une belle soirée. Et en toute première partie, ça c'est à découvrir, pour le coup c'est de la découverte, mais il y a Elias, c'est de la musique des Comores, donc c'est pas courant qu'on trouve des artistes des Comores qui viennent jouer, et c'est voilà, et c'est assez rock aussi dans l'esthétique.
Super, bah on écoute un petit extrait.
Bahçeden içmiş, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim Hadduç hanım aklıma düşmüş. Bahçada mişmiş sararıp yere düşmüş.
Salam away.
Voilà, bah ça c'était un peu pour la programmation musicale. Je sais pas si t'avais d'autres choses, d'autres conseils à rajouter, mais je voulais qu'on dise un petit mot peut-être aussi sur les expos, t'en as parlé, peut-être sur, il y a des projections aussi qui sont organisées pendant le Grand Soufflet.
Oui, donc voilà, après toute la programmation, on le disait, elle est hyper vaste, ouais. Faut pas hésiter à aller sur le site internet legrandsoufflet.fr où il y a vraiment tout le détail de la programmation. Et voilà, je reviens là-dessus sur l'accessibilité, hein, sur les tarifs. Il y a beaucoup de gratuits au Tabor. On a deux chapiteaux. Il y en a un qui est 100% gratuit avec des DJ sets, des concerts. Et l'autre, il est payant, mais avec demi-tarif, carte sortir. Donc, c'est vraiment accessible. Passe culture, bien sûr. Et je disais, j'avais oublié la question, mais elle m'est revenue. Et donc oui, des projections, on projette notamment le film documentaire de Jacqueline Co, Les Bad Girls des mondes arabes, dans les musiques arabes. Donc c'est un film documentaire qui reprend l'importance de la place des femmes du 8e siècle à nos jours dans les musiques arabes et de l'importance de leur patte artistique. Dans ce courant esthétique, donc ça c'est un documentaire qu'on est très heureux de présenter. Il y aura des films aussi à l'Arvor autour de la culture balkanique, Et puis pour les tout petits, des projections jeunes publics dans les médiathèques du département, avec des solos de harpe et des solos d'accordéon selon les médiathèques. Voilà pour les bambins de 3 à 10 ans. Je ne sais pas s'ils écoutent, c'est là. Mais voilà.
Super, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Le Grand Soufflet, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 12 octobre, partout en Ille-et-Vilaine.
Ouais.
Merci Clément
Legoff. Merci beaucoup.
Et demain, Cham sera au Tabor pour le Grand Soufflet pour une émission spéciale. Ne manquez pas ça.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et aujourd'hui, on va entendre une toute nouvelle chronique. C'est la chronique de Eva et ça s'appelle « Ça danse pas mal et vous ?». Aujourd'hui, retour sur la Happy Manif du 6 septembre dernier au Triangle.
Imaginez 150 personnes devant le conservatoire du Blône. C'est la fin de l'été, le 6 septembre exactement. Le ciel est clément et il fait même plutôt bon. Imaginez ces 150 personnes de tous âges, de tous horizons, avec, sur la tête, un casque audio assez imposant. Vous avez l'image ?
Oui.
Tout le monde attend la même chose, mais quoi ? Et pourquoi ces casques sur les oreilles ? Mais c'est qu'il s'agit de l'objet essentiel du concept un peu loufoque nommé Happy Manif, qu'a choisi le Triangle pour fêter sa rentrée et ses 40 printemps. Sous forme de déambulation, les 150 convives de cette pièce chorégraphique unique en son genre avancent doucement vers le Triangle afin de découvrir quelques pans de son histoire et son lien fort avec le quartier. Tout cela dans une sorte de faux silence car, vous allez l'entendre, cette manif est plus bruyante qu'il n'y paraît, même si tout le monde est guidé par ce que l'on entend dans le casque. Et oui, en plus de danser, on nous demande d'échauffer nos voix. Et ça donne ça. Alors désolé pour la qualité du son que j'ai récupéré de vidéos de portable. Passons outre ce que peuvent imaginer les passants du quartier, car petit à petit se crée de la complicité. On se regarde davantage, on sourit. Ce terme « Happy Manif » est vraiment bien trouvé. Ça met réellement en joie. Et nous allons de surprise en surprise. Un moment de danse suspendu entre Bruce Chiffard, artiste associé pendant 3 ans, et Hugo, son acolyte. Ou le tour de force du chorégraphe David Roland, à l'origine du concept, qui réussit à diviser cette immense troupe en deux, la moitié du groupe devenant le public de l'autre moitié qui fait le show. On y apprend aussi qu'Étienne Dao y a fait un concert l'année de l'ouverture du Triangle en 1985. Avant de finir sur le plateau, on passe par la salle XL et je crois que c'est mon moment préféré. Écoutez et essayez de deviner ce qui se passe. Oui, la joyeuse bande éphémère danse et chante sur un tube des années 80 comme en boîte de nuit. Drôle de bulle temporelle. Alors, si vous entendez parler de Happy Manif, foncez sans hésiter. Je ne peux que vous recommander cette expérience inédite.
Merci beaucoup Eva, j'espère qu'on te reverra bientôt pour une nouvelle chronique. Ça danse pas mal et vous ?
J'espère, j'ai déjà des idées.
Oui, trop cool. Allô ?
Ah, le téléphone !
Téléphone !
Allô ?
La radio sauvage.
Pas de message sur notre répondeur aujourd'hui. Sniff, sniff, laissez-nous un message. Je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. On vous attend, on vous écoute. Racontez-nous tout ce que vous avez envie. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos idées de sujet, le retour sur le travail de notre super équipe. Vraiment, on prend tout. Ce sera diffusé à la fin de l'émission. Merci Maud pour la technique. On se retrouve demain depuis le Tabor pour le Grand Soufflet à 18h. Ne manquez pas ça. À demain.
sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs.
6 heures avant minuit, 18 heures, 19 heures, sur Syllabe, la radio sauvage.